Nous tournâmes donc longuement autour de l'édifice, c'est-à-dire que nous examinâmes de loin les tours orientales, méridionales et occidentales, avec les murs qui les reliaient. Quant au reste, il donnait sur la pique, mais pour des raisons de symétrie, il ne devait pas être différent de ce que nous voyions. Et ce que nous vîmes, remarqua Guillaume, tandis qu'il me faisait prendre des notes précises sur ma tablette, c'était que chaque mur avait deux verrières et chaque tour cinq. « Maintenant, raisonne un peu, » me dit mon maître. « Toutes les pièces que nous avons vues comptaient une fenêtre. »« À part celles qui ont sept côtés, » dis-je. « Et c'est normal. Ce sont celles qui se trouvent au centre de chaque tour. »« Et à part quelques-unes que nous avons trouvées sans fenêtre et qui n'étaient pas heptagonales, oublie-les. » D'abord, trouvons la règle, ensuite nous chercherons à justifier les exceptions. Nous aurons donc vers l'extérieur cinq pièces pour chaque tour et deux pièces pour chaque mur, chacune avec une fenêtre. Mais si d'une pièce avec fenêtre, on avance vers l'intérieur de l'édifice, on rencontre une autre salle avec fenêtre, signe qu'il s'agit des fenêtres intérieures. À présent, dis-moi quelle forme a le puits intérieur ? Tel qu'on le voit dans les cuisines et dans le scriptorium. Octogonal, dis-je. Parfait. Et sur chaque côté de l'octogone peuvent très bien s'ouvrir deux fenêtres. Cela veut dire que pour chaque côté de l'octogone, il y a bien deux pièces sur l'intérieur. Exact ?
Oui, mais les pièces sans fenêtres ?
Il y en a huit en tout. En effet, la salle intérieure de chaque tour a sept côtés, possède cinq parois, qui donnent sur chacune des cinq pièces de chaque tour. Qu'y a-t-il derrière les deux autres parois ? Pas une pièce située le long du mur extérieur, car il y aurait des fenêtres, ni une pièce disposée le long de l'octogone, pour les mêmes raisons et parce qu'il s'agirait alors de pièces exagérément longues. De fait, essaie de tracer un dessin de la bibliothèque comme elle apparaîtrait vue de haut. Tu vois que correspondant à chaque tour, il doit y avoir deux pièces qui avoisinent la salle heptagonale et donnent sur deux pièces qui avoisinent le puits octogonal intérieur. Je m'essayais à tracer le dessin que mon maître me suggérait et lançai un cri de triomphe.
« Mais alors, nous savons tout ! Laissez-moi compter, la bibliothèque a 56 pièces, dont 4 hectagonales et 52 plus ou moins carrées. » Et d'entre ces dernières, 8 sont sans fenêtre, tandis que 28 donnent sur l'extérieur et 16 sur l'intérieur.
Et les 4 tours ont chacune 5 pièces de 4 côtés et une de 7. La bibliothèque est construite selon une harmonie céleste à laquelle on peut attribuer des significations variées et mirifiques.
Splendide découverte, dis-je. Mais alors pourquoi est-il aussi difficile de s'y orienter ?
Parce que ce qui ne correspond à aucune loi mathématique, c'est la disposition des passages. Certaines pièces permettent d'accéder à plusieurs autres, certaines à une seule. Et on peut se demander s'il n'y a pas des pièces qui ne permettent d'accéder à aucune autre. Si tu considères cet élément, plus le manque de lumière et l'absence totale d'indices fournis par la position du soleil, ajoute-y les visions et les miroirs, tu comprends combien le labyrinthe est de nature à désarçonner quiconque le parcourt, déjà agité par un sentiment de faute. D'autre part, songe comme nous étions désespérés, nous, hier soir, quand nous ne parvenions plus à trouver notre chemin. La plus grande confusion obtenue avec le plus grand ordre. Ce me semble un calcul sublime. Les bâtisseurs de la bibliothèque étaient de grands maîtres.
Comment ferons-nous alors pour nous orienter ?
Au point où nous en sommes, ça n'est pas difficile. Avec le plan que tu as relevé. Et qui, peu ou prou, doit correspondre au tracé de la bibliothèque. Dès que nous serons dans la première salle heptagonale, nous ferons en sorte de trouver tout de suite une des deux pièces aveugles. Puis, en prenant toujours sur la droite, après trois ou quatre pièces, nous devrions nous trouver de nouveau dans une tour, qui ne pourra être que la tour septentrionale, jusqu'à tomber sur une autre pièce aveugle qui, à gauche, avoisinera la salle heptagonale et, à droite, devra nous permettre de retrouver un trajet analogue à celui que je viens de te dire, jusqu'à arriver dans la tour occidentale.
Oui, si toutes les pièces donnaient dans toutes les pièces.
En effet. D'où l'utilité de ton plan, sur lequel marquer les parois pleines de façon à savoir quelle déviation nous prenons. Mais ce ne sera pas difficile.
« Mais sommes-nous certains que ça marchera ? » demandai-je perplexe. « Parce que tout me semblait trop simple. »«
Ça marchera, » répondit Guillaume. omnes enim causae effectuum naturalium dantur per lineas angulos et figuras. Aliter enim impossibile est sciri propter quid in illis, cita-t-il. Ce sont les mots d'un des grands maîtres d'Oxford. Malheureusement, nous ne savons pas encore tout. Nous avons appris comment ne pas nous perdre. Il s'agit maintenant de savoir s'il y a une règle qui gouverne la distribution des livres dans les pièces. Et les versets de l'Apocalypse nous en disent fort peu. C'est qu'aussi beaucoup se répètent, identiques dans des pièces différentes. Et pourtant, le livre de l'apôtre aurait permis de trouver bien plus que 56 versets. Sans nul doute. Donc, certains versets seulement sont bons. Bizarre. Comme s'il y en avait eu au moins 50, 30, 20. Ah, par la barbe de Merlin ! De qui ? Aucune importance. Un magicien de mon pays. Ils ont utilisé autant de versets que de lettres de l'alphabet. Ah, il en est bien ainsi. Le texte des versets ne compte pas. Seul compte les lettres initiales. Chaque pièce est marquée par une lettre de l'alphabet et toutes ensemble, elles composent un texte que nous devons découvrir. Comme un poème figuré, en forme de croix ou de poisson ? Plus ou moins, et probablement au temps où la bibliothèque fut constituée, ce type de poème était fort en vogue. Mais d'où part le texte ? D'un cartouche plus grand que les autres. De la salle heptagonale, de la tour d'entrée, ou bien... Mais bien sûr ! Des phrases en rouge. Mais il y en a tant. Et donc, il y aura beaucoup de textes, ou beaucoup de mots. Toi, à présent, recopie mieux et en plus grand ton plan. Puis, à notre prochaine visite de la bibliothèque, non seulement tu indiqueras avec ton stylet et sans appuyer les pièces par où nous passons, et la position des portes et des parois, sans oublier les fenêtres, mais aussi la lettre initiale du verset qui y apparaît. Et en quelque sorte, comme un bon enlumineur, les lettres en rouge, tu les feras plus grandes. « Mais comment se fait-il, dis-je plein d'admiration, que vous ayez réussi à résoudre le mystère de la bibliothèque en la regardant de l'extérieur, et que vous ne l'ayez pas résolu quand vous étiez dedans ?»« Ainsi Dieu connaît le monde, parce qu'il l'a conçu dans son esprit comme de l'extérieur, avant qu'il fût créé, alors que nous, nous n'en connaissons pas la règle, car nous vivons à l'intérieur du monde, l'ayant trouvé déjà fait. »«
On peut ainsi connaître les choses en les observant de l'extérieur ?»«
Les choses de l'art. » Car nous parcourons dans notre esprit les opérations de l'artisan, pas les choses de la nature, car elles ne sont point l'œuvre de notre esprit.
Mais pour la bibliothèque, cela nous suffit, n'est-ce pas ?
Oui, dit Guillaume, mais seulement pour la bibliothèque. Allons-nous reposer à présent. Je ne peux rien faire jusqu'à demain matin quand j'aurai, j'espère, mes vers. Autant vaut dormir et nous lever de bonne heure, je tâcherai de réfléchir.
Et le souper ?
Ah, c'est vrai, le souper. L'heure est désormais passée, les moines sont déjà accomplis, mais les cuisines sont peut-être encore ouvertes. Va chercher quelque chose.
Voler ?
Demander à Salvatore, qui est maintenant ton ami.
Mais c'est lui qui volera.
Es-tu par hasard le gardien de ton frère ? Demanda Guillaume avec les mots de Caïn. Mais je m'avisais qu'il plaisantait et voulait dire que Dieu est grand et miséricordieux. Raison pourquoi je me mis à la recherche de Salvatore, que je trouvais près des écuries. « Magnifique !» dis-je en montrant Brunel. « Et façon d'engager la conversation. J'aimerais bien le monter. »«
Non se puede. Un bon insiste. Mais pas besoin d'un bon cheval pour filer à toute allure. »
Il m'indiqua un cheval robuste, mais disgracieux.
« Même celui-ci, soufite. » Vide iluc tertio sequi.
Il voulait m'indiquer le troisième cheval. Je ris de son drôle de latin.
Et que feras-tu avec celui-là, lui demandai-je.
Il me raconta alors une étrange histoire. Il dit qu'on pouvait rendre n'importe quel cheval, fût-ce la bête la plus vieille et la plus cagneuse, aussi rapide que Brunel. Il faut mélanger à son avoine une herbe qui s'appelle satyrion, hachée menue, et puis lui oindre les cuisses avec de la graisse de cerf. Ensuite, on monte sur le cheval, et avant de les prôner, on lui tourne les naseaux vers le levant, et on prononce trois fois à voix basse dans son oreille les mots « Gaspard »,« Melchior » et « Merquisard ». Le cheval partira à fond de train et fera en une heure le chemin que Brunel ferait en 8 heures. Et si on lui avait suspendu au cou les dents d'un loup que le cheval même en galopant aurait tué, la bête ne sentirait alors nulle fatigue. Je lui demandai s'il avait jamais essayé. Il me dit, s'approchant avec circonspection et me murmurant à l'oreille, avec son haleine vraiment désagréable, que c'était très difficile parce que le satyrion n'était plus désormais cultivé que par les évêques et par leurs amis les chevaliers, qui s'en servent pour augmenter leur pouvoir. Je mis fin à son laïus et lui dis que ce soir, mon maître voulait lire certains livres dans sa cellule et désirait aussi y prendre son repas.
« Moi ne coupe, »
dit-il.
« Lui fait l'angelote en palette. »
« Comment c'est ?»«
Facilis, tu prends l'angelote pas trop vieux ni trop salé et coupé en tranches minces, en bouchée carrée ou si coûte te plaît. Et postea tu mettras un doigt de beurre ou de sandou frais à réchauffer sobre la brasia. Et dedans vamos à déposer deux tranches d'angelote. Et comme il te semble tendre, sucrum et cannelle supra positurum dubis. Et serre tout de suite in tabula, car il faut les manger todo chaud.
Va pour l'angelot en palette, lui dis-je. Et il disparut vers les cuisines en me disant de l'attendre. Il arriva une demi-heure après, avec un plat recouvert d'un linge. L'odeur était bonne.
« Tiens !»
me dit-il. Et il me tendit aussi une grande lampe remplie d'huile. «
Pourquoi faire ?» demandai-je.
« C'est pas moi !»
dit-il d'un air chafouin.
« Filèche ton magistère veut ir en lieu sombre. Esta noche ?»
Salvatore en savait évidemment plus long que je ne soupçonnais. Je ne poussais pas mon enquête et apportais sa pitance à Guillaume. Nous mangeâmes, et moi je me retirai dans ma cellule. Ou du moins, je fis semblant. Je voulais encore trouver Hubertin, et je rentrai dans l'église furtivement.